Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le travail qu'il va opérer avec nous aujourd'hui. Et nous sommes en train d'étudier le livre de Néhémie. Donc c'est la troisième vague de réveil pour les enfants de Dieu qui étaient déportés à Babylone et dans les régions voisines. C'est la troisième vague de réveil pour retourner à leur pays et reconstruire leur pays, notamment le temple et la ville de Jérusalem. Et on avait dit dès le départ que la ville de Jérusalem et le temple représentaient la présence divine sur terre, représentaient la royauté de Dieu sur son peuple et sur la terre. Donc c'était capital pour eux. Pour eux, adorer leur Dieu, ça allait de pair avec une ville de Jérusalem resplendissante, donc un temple bien en forme, ainsi que la ville. Et la force d'une ville à l'époque, c'était les murailles qui entourent la ville. Donc il y a eu un premier départ, une première vague de réveil, d'aller. Le réveil, c'est retourner à Dieu tel que Dieu le veut. Donc retourner à Dieu dans la relation optimale. C'est ça le réveil. Donc puisque nous, les humains, nous avons l'habitude de nous fatiguer, de nous prélasser, d'entrer dans la négligence avec le temps. Et donc Dieu suscite le réveil pour nous ramener à la relation optimale, à la relation normale. Et la relation normale, c'était l'adoration de Dieu au temple et une ville de Jérusalem, joie de toute la terre. Voilà, comme c'est écrit dans le psaume 48. Et la première vague est partie avec Zorobabel et le sacrificateur Josué. Ils ont rebâti le temple. La deuxième vague est partie avec Esdras. Ils ont réinstallé le service de sacrificateur comme il faut. Ils ont réinstallé la Bible, la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, l'enseignement de tout le peuple. Ça a été réinstallé. Et maintenant, nous voyons la troisième vague avec Néhémie en ce qui concerne la construction de la muraille de Jérusalem, ce qui va compléter ce qu'ont fait les autres et ce qui va constituer une restauration totale du peuple de Dieu et du culte de l'Éternel. Voilà. Et nous avions dit que pour nous, Jérusalem, les murailles de Jérusalem, c'est le retour à la première église, donc aux actes des apôtres. Donc comment le Seigneur a entretenu une relation avec les premiers chrétiens et a travaillé avec eux. C'est ça notre désir, parce que nous avions dit préalablement que quand Dieu fait quelque chose, comme au temps de la création, il fait la chose directement bonne. Et c'est le temps plutôt qui altère la chose à cause des péchés des humains. Ce n'est pas que la chose, quand elle a été créée, elle fut perfectible. Non, Dieu fait les choses bien. Maintenant, malheureusement, c'est l'homme qui altère et Dieu envoie son esprit pour susciter le réveil, ramener les gens à ce qu'il avait fait de bien au départ. C'est pourquoi nous pensons que l'Église des Actes des Apôtres, c'est la volonté de Dieu pour nous tous. Et donc, pour nous, le réveil, se retourner aux pratiques de cette église-là, enseignement des apôtres, fraction de pain, les prières et la communion fraternelle. Donc, nous devons retourner à ça, retourner à l'évangélisation mondiale, parce qu'il a dit à l'effet de toutes les nations des disciples, retourner à comment dire, à l'ordre dans l'Église. On voit après dans les épîtres, on nous décrit qu'il faut qu'il y ait, on nous dit qu'il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'Église de Dieu. Donc retourner à tout cela, et retourner aussi au fait que Dieu seul est le maître, Dieu seul est le grand berger, Dieu seul mérite qu'on le serve à 100%. Voilà, donc nous en sommes au chapitre 4. On a fini le chapitre 3 la fois passée où la muraille commence à être reconstruite d'une manière, je dirais, artisanale. C'est-à-dire qu'on n'a pas loué des grands ouvriers architectes pour reconstruire la muraille, mais c'est des groupes de gens volontaires en fonction de leur situation géographique par rapport à l'ancienne muraille. Ben, qui se mettent à reconstruire. Et on avait dit la fois passée que l'œuvre de Dieu, ça ne viendra pas toujours comme une affaire industrielle, comme une sorte d'usine. Parfois, ça viendra d'une manière artisanale où chaque chrétien, des petits groupes de chrétiens vont rebâtir cette œuvre, comme ce fut le cas en Chine. Le réveil en Chine, ce n'est pas un grand mouvement qui l'a ramené. Non, c'est les groupes de maisons qui, animés par le Saint-Esprit et le souci d'être comme Jésus, c'est eux qui ont rebâti l'Église en Chine et jusqu'à ce qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Donc, maintenant, c'est vrai qu'il y a des grosses industries églises là-bas, mais tout ça a pu prendre existence par la force, le travail des petits groupes. Voilà. Donc nous ne devons pas attendre d'avoir de grands moyens pour rebâtir l'œuvre de Dieu. Avec les moyens du bord, nous pouvons le faire. Et donc, Néhémie a fait une sorte d'enquête concernant la muraille et il a réveiller d'autres personnes pour se joindre à lui, pour commencer la reconstruction d'une manière artisanale. Donc nous continuons maintenant chapitre 4, Néhémie chapitre 4.
Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit: qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu! Comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail.
Amen. Voilà, nous voyons le début de la reconstruction de la muraille. Ce début connaît une opposition directe dès le départ. Donc quand on commence à vouloir rebâtir l'œuvre de Dieu dans la vérité, il y a une opposition directe dès le départ qu'on a vu quand les Zorobabel aussi ont voulu rebâtir. Donc il y a une attaque spirituelle. Donc parmi les titres qu'on a mis aujourd'hui, on a mis attaques spirituelles diverses. Donc dès le départ, il y a des attaques. Et là, c'est une opposition frontale. Ces gens-là disent: ah, ils sont impuissants, ils ne pourront pas rebâtir. Donc, ils critiquent et il y a d'autres qui disent qu'ils bâtissent, on va voir comment ça va se renverser. Donc, il va y avoir toutes sortes d'oppositions. Il y aura l'opposition frontale. Et dans le cas de Zorobabel et Josué, le sacrificateur, c'était une infiltration. Les gens ont dit: mais nous voulons bâtir avec vous. Voilà, mais ils n'étaient pas juifs. Les autres ont dit: non, on ne veut pas. Nous, on va bâtir la maison de notre Dieu nous-mêmes, nous seuls. Et là, c'est une opposition frontale. Vous n'allez pas réussir, ça ne va pas marcher. De toute façon, quand vous allez commencer, eh bien, un renard va s'élancer pour écraser tout ça. C'est une façon de dire, oh, on trouvera le moyen de renverser cette muraille. Et qu'est-ce qu'elle a été la réaction? Nous avions dit que Néhémie, c'est la prière. Esdras, c'est la parole, même s'il priait aussi. Il faut comprendre même, quand on parle d'histoire de Caïn et Abel, les gens s'étonnent qu'on ait reproché à Caïn d'avoir sacrifié des légumes alors qu'il était agriculteur, cultivateur. Oui, mais il faut comprendre que nous vivons un temps, une époque, c'était une époque où, qu'on soit cultivateur, maçon, tout ce qu'on veut, on avait aussi des animaux, on avait aussi des bêtes. Donc les gens buvaient le lait de leur propre animal. Donc c'est cela. Et donc dans ce cas aussi, donc quand on dit que Esdras c'était un homme de la parole, ça ne veut pas dire qu'il priait pas, il priait, mais il était, son ministère tournait autour de la parole de Dieu. Néhémie, son ministère tourne autour de la prière. Donc il prie, Seigneur, regarde tout ce qu'ils font. Et ils ont repris courage, c'est écrit au verset 6, « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. » Et le peuple prit à cœur ce travail. Nous continuons, verset 7, oui,
question. Oui, pas sur la même question. Oui, par rapport à l'opposition, tu parles de l'opposition frontale lorsqu'il y a un réveil. Maintenant, j'avais une question, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand on a commencé les concerts de la chorale il y a à peu près une douzaine d'années, en fait, c'était très difficile d'annoncer l'évangile au travers du chant. Et aujourd'hui, les portes nous sont plus facilement ouvertes. Pourtant, on est plus aujourd'hui proche d'un réveil qu'on l'était peut-être il y a 12 ans, non?
Non, mais c'est pour Dieu, ça a commencé quand on a tenté, puisque c'est là qu'on ramenait les choses à la normale. Et donc, il y a eu une opposition frontale, parce que dès qu'on chantait, donc les gens s'en allaient. Dès qu'on citait le nom de Jésus, les gens s'en allaient. Donc, pour Dieu, ça commence là. Donc, et ça prend le temps que ça prend, mais avec le temps, les forces qui s'opposaient, vu que nous, on a persévéré dans la louange, ces forces-là se sont affaiblies. Et nous, aujourd'hui, ça paraît facile maintenant qu'on ait des portes ouvertes pour faire des concerts d'évangélisation. Mais pour Dieu, ça commence au moment où nous, on veut rebâtir. C'est à ce moment-là. Voilà. Et donc, par exemple, dans les Actes des Apôtres, dès qu'ils commencent l'œuvre de Dieu, nous voyons une opposition frontale avec Ananias et Saphira, qui veulent insuffler le mensonge dans la stratégie divine. Et qu'est-ce qu'on voit? Tout de suite, ils sont abattus par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui peut expliquer Le verset de Néhémie, le verset 5, « Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » C'est-à-dire, Dieu agit en fonction de leur péché. Ça ne veut pas dire que, il n'y a pas un côté vouer les gens éternellement à l'enfer, mais c'est plus, Seigneur intervient directement par rapport à leur péché, comme ce fut le cas avec Ananias et Saphira. Donc, quand un réveil commence et que les gens s'opposent, ils sont frappés directement parce que Dieu sait encore que son peuple est faible. Et s'il laissait les oppositions demeurer, son peuple peut se fatiguer. Donc, le temps que le peuple de Dieu se fortifie, eh bien, il est obligé d'éliminer les menaces directes. C'est le conseil qu'on donne souvent aux gens. Quand Dieu commence quelque chose, il ne faut pas s'opposer. Donc, il vaut mieux être prudent. On dit, si c'est de Dieu, ça continuera. Si ce n'est pas de Dieu, voilà, ça s'arrêtera. Voilà. Nous continuons verset 7.
Mais Sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se former. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « Ne craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillait et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « L'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns les autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. » C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple « Que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. » Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau.
Amen. Nous voyons des principes de combat spirituel que Néhémie nous montre là, à imiter si nous voulons poursuivre l'œuvre de Dieu sur terre. C'est apprendre à travailler et prier en même temps. Ici, c'est quoi la prière? La prière, c'est le fait qu'on a mis des gens pour garder physiquement ceux qui travaillaient. Donc, il y a des gens qui avaient des armes pour empêcher que l'ennemi ne vienne tuer ceux qui travaillaient. Donc, ils se sont partagé la tâche. Il y en a qui travaillaient et la moitié qui gardaient physiquement ceux qui travaillaient. Et ça nous interpelle, ça nous parle. Une organisation divine doit avoir un côté prière très important. Sinon, les attaques jour et nuit de l'ennemi viendront à bout de cette organisation. Il nous faut la prière. Il nous faut la prière. D'ailleurs, nous pensons à ce jeûne annuel que nous faisons pour remettre l'œuvre de Dieu sous sa protection. Donc, nous allons faire ce jeûne soit la semaine prochaine, soit l'autre semaine. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire de prier. C'est aussi bien de travailler. Donc, il faut faire les deux toujours. Donc, une église qui néglige la prière, qui ne fait que travailler, va s'épuiser. Parce que les attaques sont invisibles, mais elles existent, elles sont là. Il ne faut pas négliger ça. Il y a une réalité que Paul nous décrit dans Éphésiens 6. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Ici, l'Ancien Testament est l'image spirituelle du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les ennemis sont invisibles. Ce sont des esprits. Et dans l'Ancien Testament, ils sont visibles, ce sont des humains. Donc Dieu nous facilite la tâche en lisant l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau Testament. Donc quand on lit l'Ancien Testament, on comprend les conseils du Nouveau Testament qui nous demandent de prier sans cesse, qui nous demandent de recommander les choses à Dieu. Et nous comprenons certaines les exhortations ou pensées du Nouveau Testament en lisant l'Ancien Testament. Donc là où on parle des gardiens, des gens qui protègent les autres, pour nous, c'est les intercesseurs, c'est les gens qui prient. Et Ésaïe 62, 6 à 7 est là pour nous le confirmer clairement que nous pouvons prendre, faire cette correspondance-là. Parce que dans Ésaïe 62, 6 à 7, on dit « J'ai placé sur tes murailles des gardes qui crient à toi jour et nuit. » Donc, on voit bien que ces gardes peuvent être sont assimilés à des gens qui crient à Dieu, donc à des intercesseurs. Donc, les gardes, le système qu'établit Néhémie, là, nous pouvons le transposer à notre époque en multipliant des séances de prière pour... par rapport à tous les projets que nous avons, par rapport à tout le travail que nous avons, en priant avant de faire quoi que ce soit avec le Seigneur, et même pendant. Donc, parce que là, il y avait des gens qui gardaient la nuit alors qu'on ne travaillait pas, mais il y a des gens aussi qui gardaient pendant la journée alors que les autres travaillaient. Donc, et cela implique des sacrifices. Donc, il y aura des moments où on fera des veillées de prière, des jeûnes et prières. Et là, il dit que chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Donc, si les gens se sacrifiaient, les gens quittaient la campagne parfois où ils habitaient pour venir dormir en ville pour soutenir le travail. À tour de rôle, il y a des gens qui quittaient leur lit pour venir dormir, pas dormir, garder la nuit, la muraille. Et c'est ça que nous devons comprendre. Il doit y avoir un roulement de prières dans les églises. Donc c'est vraiment important. Je dis que ce livre de Néhémie, d'Esdras, ces deux livres coïncident avec une période que nous sommes en train de vivre en tant qu'église locale et en tant qu'église universelle. C'est une période où Dieu veut nous ramener à la vérité, nous ramener aux actes des apôtres et produire un réveil. Et ces conseils que nous lisons sont très importants pour notre époque. Voilà, donc c'est cela, oui.
Juste une question, je crois que ça suit un peu la question de la sœur Mylène, peut-être qu'il y a déjà la réponse. À notre époque, étant donné que là, il y a aussi des réveils qui sont en train de se faire, est-ce que Dieu peut frapper aussi de cette manière aussi direct les personnes qui peuvent combattre ce réveil-là?
Oui, quand quelque chose naît, voilà, Dieu, quand Dieu laisse, quand il sait que son Église est forte, elle peut surmonter les difficultés. Là, pas de problème. Mais il y a la miséricorde de Dieu qui fonctionne et qui laisse passer du temps aussi pour perfectionner son église en utilisant les mauvaises personnes. Mais quand son église est naissante, quand son œuvre commence et qu'on veut s'y opposer, le Seigneur agit comme un bulldozer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de miséricorde, mais la miséricorde, ça a déjà fonctionné. Et quand on ne saisit pas ça, il balaye parce qu'il sait que sinon son œuvre ne va pas même se réveiller, quoi. Va même pas commencer. Et oui, donc même aujourd'hui aussi, le Seigneur peut faire ce genre de choses. Je me souviens au réveil d'Indonésie avec le frère Mel. Donc quand ça a commencé, quelques jours à peine, quand le réveil commence, les enfants commençaient à prophétiser. Et un enfant a prophétisé à quelqu'un qui était dans l'église que s'il ne se repentait pas de ses péchés avant minuit, il allait mourir. Donc cet homme-là, il fumait en cachette. Il était alcoolique et fumait en cachette. Et il n'a pas admis. Et à minuit pile, il est mort. Donc c'est que quand quelque chose commence, nous sommes des humains. On n'est pas suffisamment fort encore. Dieu le sait. Et il ne peut pas permettre que les ennemis soient là, forts au milieu de nous, en action. Donc à moins qu'ils ne soient pas en action. Et c'est là que il agit fortement pour permettre que son Église prenne une certaine force qui fera qu'elle résiste aux attaques futures.
D'accord. Disons que c'est possible aussi que Dieu puisse même envoyer, je dirais, des plaies à toute une nation qui combat peut-être des chrétiens ou qui sont en train de travailler.
C'est possible. Donc, tout est possible. Au fait, l'idée qui est là, ce n'est pas punir pour punir. L'idée qui est là, c'est permettre que la jeune pousse monte. Voilà. Que la jeune pousse de Dieu, c'est-à-dire l'Église qui est en train de naître, permette que ça naisse. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà. Donc, c'est un grand exemple que nous montre Néhémie de façon de travailler pour le Seigneur, prier et travailler. Pas seulement prier, travailler aussi. Donc, il faut faire les deux. Et il nous fait comprendre la réalité du combat spirituel, des ennemis. Ça existe. Et en grande quantité, Éphésiens 6 nous le montre, vous n'avez pas à combattre la chair et le sang, mais des esprits qui sont rangés, ordonnés en principauté. Des gens qui ont, ils sont organisés. Il y a un esprit qui est chef de la ville du Havre. Donc il y a un esprit qui est chef de la ville de Rouen, ainsi de suite. Ils sont organisés, des esprits méchants dans les airs, des dominations. Voilà, des esprits continentaux qui dominent tout un continent. Donc, ils sont organisés. Éphésiens 6 nous le montre. Et Néhémie, physiquement, nous permet de voir ça. Oui, ils s'organisent pour venir déstabiliser l'œuvre de Dieu. Mais Dieu avertit son peuple. Et quand il avertit, il nous organise aussi un système de prière. C'est très important de comprendre ces choses-là. Et de ne pas fuir la prière. Dès qu'on dit la prière, les gens ne sont pas là. Mais si on dit l'action, ils sont là. Non, la prière, c'est on doit faire moitié-moitié. Donc c'est ce qu'on on comprend de ce texte, moitié-moitié. Moitié prière, moitié action. Moitié prière, moitié action. Voilà, que ça nous parle et que ça nous aide à avancer avec le Seigneur. Nous continuons avec le chapitre 5.
Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Les uns disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. » D'autres disaient, « Nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. » D'autres disaient, « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. » Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles. Et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis. « Quoi ? Vous prêtez à intérêt à vos frères ?» Et je rassemblai autour d'eux une grande foule, et je leur dis, « Nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères, les Juifs, vendus aux nations. Et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus ?» Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insulté par les nations, nos ennemis ? Moi aussi, et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. » Ils répondirent, nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant, que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit « Amen ». On célébra l'Éternel et le peuple tint parole.
Voilà une autre réalité d'attaque. Hein. C'est l'argent, c'est les biens matériels. Donc dans l'œuvre de Dieu, c'est une réalité. Et Il faut pas croire, puisque les gens parlent en langue ou prophétisent ou chantent ou bien ferment les yeux avec une certaine concentration pour prier, faut pas croire qu'ils sont devenus parfaits. Ils sont pas la perfection totale, ça sera la résurrection. Donc sur terre, ben la chair, si on la laisse agir, elle agit. Donc et malheureusement dans un des pièges, une des attaques sur le réveil naissant, c'est le fait matériel, le problème du matériel. C'est une réalité. Et on l'a dit concernant Ananias et Saphira. Donc les gens vendaient les maisons et ils ont voulu mentir tout ça pour gagner de l'argent. Et voilà. Ça, c'est le chapitre 5 de Actes des Apôtres. Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 6, nous voyons un autre problème. J'espère que vous vous en souvenez. Donc, il y avait des polémiques concernant la nourriture à donner aux veuves. Donc, à tel point que les apôtres ont décidé qu'on nomme des diacres, qu'on élise des diacres qui allaient faire le travail. Donc, pour éviter que les apôtres aient à prêcher, à prier et en même temps distribuer la nourriture. Parce qu'en distribuant la nourriture, il y a toujours des mécontents, il y a toujours des problèmes. Et donc, il ne faut pas que ce problème-là soit un frein pour l'évangile quand les gens prêchent. Donc c'est pourquoi les apôtres se sont sortis de l'histoire de gérer les biens matériels, parce qu'ils ont compris que ça pouvait devenir un obstacle pour la prédication. C'est pourquoi dans les conseils que je peux, on peut tirer de ce qu'on lit, c'est quoi? C'est que, et de ce qu'on lit là, et de ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres, c'est qu'il faut être prudent par rapport aux questions matérielles. Il faut vraiment, dans le réveil, il faut considérer que c'est Dieu vraiment qui pourvoit à nos besoins. Il faut prendre l'esprit des Actes des Apôtres où les gens pouvaient se dépouiller pour les autres en comptant sur Dieu. Et Dieu donnait. Et il est écrit dans les Actes des Apôtres, il n'y avait plus de pauvres. Donc, et Néhémie dit, mais vous profitez de la faiblesse des autres juifs pour les acheter leurs champs, ils hypothèquent leurs champs et vous profitez de ça. Donc les gens qui étaient riches profitaient de certaines difficultés pour acheter, prêter de l'argent à des juifs faibles, et quand ils n'arrivaient pas à rembourser, ils prenaient leur terrain, ils agrandissaient leur terrain à eux, et ils prenaient leurs enfants en esclaves, juifs, entre juifs. Néhémie dit, mais comment pas qu'on peut construire une nation avec cet esprit-là? Néhémie est intervenu pour dire, écoute, moi aussi j'ai prêté des choses aux gens, nous allons annuler toutes ces dettes-là. Et les gens, au verset 12, c'est écrit, nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Donc Néhémie a secoué les gens par rapport à ça. Bien-aimés, on doit en parler. Un chrétien ne doit pas dépendre de l'argent. Il ne doit pas dépendre de biens matériels parce que Dieu, il veille sur lui. C'est l'enfant de Dieu. Le ministère et l'argent, ça ne va pas ensemble. Et quand on est prédicateur, on doit éviter de se mêler en même temps de garder de l'argent et de le distribuer. Non, je ne dis pas qu'on perd en autorité. En autorité. Les apôtres avaient toujours leur autorité. Et ils pouvaient orienter les diacres par rapport à la distribution des biens. Mais ils n'étaient pas directement liés à ça. Donc, garder l'argent, commencer. Non, ils ont pris de la distance, de la hauteur par rapport à ça. Donc, un serviteur de Dieu doit faire attention à ne pas être très près de la gestion matérielle. Il faut laisser ça aux autres et veiller spirituellement sur ces gens-là. Voilà. Pas comme ce qu'on entend le dimanche, le pasteur qui appelle pour savoir, mais c'était combien les offrandes. Mais d'ailleurs, maintenant, ils n'ont tellement pas confiance qu'ils n'attendent pas d'appeler. Donc, on compte ça devant eux pratiquement. Comme ça, ils savent qu'est-ce qu'il y a. Et il y a même des pasteurs qui promettent, l'enfant a besoin de baskets. Il dit, bon, on verra le dimanche. Quoi. Donc, ça dit que après les offrandes du dimanche, je verrai si je peux t'acheter des nouvelles chaussures. Bien-aimés, c'est des abominations. Vous comprenez, nous comprenons pourquoi le réveil ne prend toujours pas dans notre, à notre époque, parce que les gens ne prennent pas de distance par rapport à l'argent. Ceux qui prêchent ne prennent pas de distance par rapport à l'argent. Ils se mêlent de tout parce qu'ils veulent prendre un peu. Mais bien-aimé, Dieu est riche. Un vrai serviteur ne va pas chercher à prendre dans une caisse quelconque. Il va compter sur Dieu. C'est Dieu qui va toucher les cœurs pour subvenir à ses besoins. Dieu est tout-puissant. Lui, il enseigne la parole, il enseigne la vérité et Dieu s'occupe de subvenir à ses besoins. C'est ça, bien-aimé. Prenons de la distance. Si nous voulons que le réveil prenne, si nous voulons que Dieu fonctionne avec nous, surtout je parle aux gens qui prêchent, aux gens qui guident les autres spirituellement, prenez de la distance par rapport à l'argent. Ne gérez pas ces choses-là. Laissons ça aux autres. Voilà. C'est important. C'est ça qui va affermir l'autorité dans la prédication, dans le partage de la parole, dans lorsqu'on prodigue les conseils aux autres, ils seront beaucoup plus pris au sérieux quand on ne touche pas à tout ce qui est matériel de près. Voilà, prenons vraiment exemple sur les apôtres dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Qui ont compris ça, ils ont dit, il faut nommer des diacres qui vont s'occuper de la distribution de la nourriture. Nous ne voulons pas entrer dans des polémiques qui vont nous freiner pour la prière et la prédication. Donc, ce n'est pas une perte d'autorité, mais c'est une prise de distance par rapport à tout ça. Donc, c'est très, très important. On voit même Paul, quand il a fait une collecte, il a fait garder ça par d'autres personnes. Ce n'est pas lui-même qui a gardé l'argent. Quand il a fait une collecte pour les gens de Jérusalem, il a envoyé d'autres personnes qui ont gardé l'argent et lui, il surveillait de loin. Voilà, il surveillait la chose, mais il n'était pas collé à la chose. Donc, c'est très important parce que dès qu'on commence à parler de toi comme quelqu'un qui aime beaucoup telle nourriture, qui aime beaucoup manger, qui aime, c'est fini. L'autorité dans la prédication, l'autorité dans les conseils, ça s'en va. Donc, il faut vraiment prendre de la distance par rapport à tout ce qui est argent, parce que ça détruit dans l'œuvre de Dieu. Et même entre nous, chrétiens, nous devons prendre de la distance, comme on voit dans les Actes des Apôtres. Les gens prenaient de la distance en faisant de leur richesse la richesse des autres. Donc, ils venaient donner aux apôtres pour que d'autres puissent en profiter. Vraiment, c'est ça là, le vrai réveil. Ce n'est pas une histoire de commencer à sauter, à parler en langue. Non, c'est tout ça. C'est prendre de la distance par rapport à l'argent afin que la gloire de Dieu se manifeste réellement au milieu de nous. C'est ce que Néhémie a incité au milieu des gens qui étaient avec lui. Merci pour cet exemple qui nous enseigne, voilà, à gérer les choses. Nous continuons au verset 14.
Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 sicles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la répartition de cette à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple.
Amen, amen. Dieu se souviendra de toi, Néhémie. Voilà. Bien-aimé, le comportement par rapport à l'argent, nous continuons. Néhémie dit quoi ? Il dit, avant moi, au verset 15, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Il y a des pasteurs, des responsables qui accablent les chrétiens en leur exigeant comme un impôt. Il faut nous donner ceci, il faut que j'ai une limousine, il faut que j'ai ici. Et les gens dépensent, donnent au prix de leur sueur. Ils donnent parce qu'ils reçoivent un lavage de cerveau. Ils reçoivent, comme un marteau. Tout le temps, on leur dit la même chose. Si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Il faut que l'homme de Dieu soit ceci, cela. Et ils dépouillent les gens. Or, dans les actes des apôtres, on voit que on répartissait la richesse à tout le monde. Alors que l'argent était donné aux apôtres, mais ils répartissaient ça à tout le monde. Aujourd'hui, ça s'arrête sur les responsables et ce n'est pas reparti. Et ça s'apparente à une sorte de tribu qu'on paye à un homme parce qu'il est notre prédicateur. Les gens reçoivent des ordres indirects, des pressions directes et indirectes avec des menaces de malédiction. Donc c'est ce que Néhémie est en train de dire là. Il dit, avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple. Mais pourtant, curieusement, Néhémie ne manquait de rien. J'avais à ma table 150 hommes juifs. Donc ça veut dire que sans accabler le peuple, Dieu bénissait. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas attendre la bénédiction de Dieu, que Dieu touche les cœurs lui-même. Non, c'est eux qui accablent. Par des invitations, ils vont inviter un pasteur qui va secouer les cocotiers pour que, à la fin du culte, les gens ont donné, même là, même ils ont inventé le système de pledger, donc en anglais, to pledge, donc tu t'engages. Tu n'as pas l'argent, mais tu t'engages. Tu écris un papier, je m'engage pour 200 euros. Tout ça, donc, à la fin d'une réunion, ils peuvent se retrouver avec des milliers d'euros ou de dollars. Et l'invité va partager ça avec le pasteur qui l'a invité. Après avoir manipulé le peuple, accablé le peuple. C'est ça le terme qui est utilisé, ça. Accablé. C'est-à-dire qu'il est écrit que le berger, le bon berger, donne sa vie pour les brebis. Là, c'est les brebis qui sont en train de donner leur vie pour le berger. Donc, c'est le contraire. Donc, elles sont accablées et elles payent comme un impôt, un tribut dur. Ce n'est pas bon. Tout ce qu'on voit sur Internet, à gauche, à droite, ou même pendant le confinement, il y en a qui ont menacé si vous ne donnez pas les offrandes par le net, par carte bancaire ou téléphone. Il y a des systèmes en Afrique avec téléphone. Si vous ne le faites pas, vous êtes maudit. C'est pas bon. On ne doit pas menacer les gens pour donner l'argent. On ne doit pas câbler les gens pour donner l'argent. On doit prêcher la parole. Quelqu'un qui comprend la parole fera comme dans les Actes des Apôtres, il donnera de lui-même. Oui.
Et qu'est-ce qui fait que il n'y ait pas du côté du peuple la possibilité justement, pas de se rebeller, mais de condamner de tels actes?
C'est le fait que le peuple se figure être à la place de celui qui profite aujourd'hui. On se dit, moi aussi à sa place, j'aurais aimé qu'on me donne autant. Donc du coup, il y a une certaine, il y a la convoitise de l'être humain qui se dit, moi aussi à sa place, j'aurais aimé avoir autant. Et il y a le rêve de chacun d'être élevé et de recevoir aussi comme lui il est en train de donner. Donc c'est la convoitise donc, du peuple qui se voit dans la personne qui fait ça. Moi je me souviens quand on était païens, jeunes, on regardait par exemple l'homme à la bouique, donc on voit la clique de Fernandel qui fait, qui casse une banque. quand tu regardes le film, tu espères qu'on n'attrape pas les voleurs, parce que tu te vois toi-même un jour peut-être faire un casse aussi, et qu'on ne t'attrape pas. Donc c'est cela. Alors que normalement, on devait être du côté des policiers en regardant le film. Mais certains films, tu regardes, tu espères qu'on n'attrape pas le voleur qui s'en sorte. Voilà, parce que tu te préfigures, tu te vois aussi, toi, voler et aller te cacher dans une île lointaine, vivre ta vie. Donc c'est cela. Donc les gens qui regardent comme ça, ont des rêves de devenir diacre, ancien, pasteur, comme ça. Eux aussi vont profiter des mêmes choses. Comme on dit, les serviteurs aussi de ces gens-là en profiter. Voilà, tout le système, hein, un noyau profiter, accabler les gens.
Mais est-ce que ça sous-entend qu'il y a une préparation, c'est-à-dire de ces personnes-là, de ces responsables, est-ce qu'ils préparent ce peuple-là à entrer dans ce genre de...
Ah bien sûr, par des prédications qui prépare progressivement les gens à donner sans réfléchir et à donner pas pour Dieu, mais à donner pour autre chose. Un exemple, on va prendre quelqu'un qui va témoigner, qui va dire que depuis qu'il avait acheté une voiture au pasteur, voilà, il a pu s'acheter une maison, il a eu telle chose. Alors les gens se disent, mais tiens, quand on achète une voiture au pasteur, on a tout ça. Eh bien, moi je vais donner, comme ça j'aurai fois 100, là, il y a un intérêt derrière. Ce n'est pas l'amour pour le serviteur, comme Paul dit, que celui qui enseigne partage ses biens avec celui qui enseigne, parce que lui, il prend du temps pour préparer l'enseignement et prier, et vous, vous prenez du temps pour travailler. Il faut qu'il y ait équilibre. Non, ce n'est pas dans cet esprit-là. C'est dans l'esprit de gagner plus tard, c'est dans l'esprit de devenir soi-même riche, et ce n'est pas bon. Et c'est l'esprit d'élévation personnelle, et ce n'est pas bon. On ne donne plus à Dieu, mais on donne à un système. Ce n'est pas bon.
Mais on a l'impression, quand par exemple, là, tu évoques ça, que certaines assemblées sont devenues comme la Française des Jeux, comme des loteries, où les gens vont et puis...
Voilà, c'est ça. On se dit, si je donne à cette personne-là, moi, je recevrai autant et ce n'est pas bon. C'est pas bon. Et les gens vivent dans ce rêve. Donc, on fait passer des faux témoignages, parfois des vrais témoignages, mais on fait passer des témoignages qui montrent que quelqu'un a été béni en faisant ceci, cela, on prêche d'une manière qui fasse que les gens se sentent obligés. Donc, parce qu'on dit, ils sont accablés, ils se sentent obligés. Or, l'apôtre Paul dit, on doit donner librement. Voilà, librement, avec joie. Donc, on ne doit pas donner sous contrainte. Là, les gens sont accablés, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont accablés, où on leur dit, c'est parce que vous n'avez pas donné que telle activité n'a pas eu lieu. Attends, si c'est l'activité du Seigneur, le Seigneur n'a qu'à pourvoir à son activité. Voilà. Donc, on ne peut pas dire aux gens, c'est parce que vous n'avez pas donné que telle chose ne s'est pas faite. Non, ils n'ont pas donné. C'est leur problème avec Dieu. Et Dieu leur demandera des comptes. Ça, c'est Dieu. Mais nous, on ne peut pas les accabler en disant, c'est à cause de vous que l'œuvre de Dieu n'avance pas, parce que vous ne donnez pas l'argent. Non, l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà. Et Dieu veut utiliser les hommes. C'est une bénédiction d'être utilisé par Dieu pour donner. Mais penser que si on ne donne pas, ça va freiner, c'est faux. L'œuvre de Dieu avancera toujours avec d'autres personnes. Voilà. Mais c'est un privilège si on peut donner. On fait quelque chose pour Dieu. Ah là, c'est vraiment l'amour entre nous et lui, quoi. C'est ça qui compte. Ce n'est pas une histoire d'être important ou de. Non, c'est l'amour pour ce Dieu-là qui a donné son Fils pour nous. Et ça nous pousse à l'adorer pas en donnant aussi. Voilà. C'est Néhémie n'a pas fait comme les serviteurs d'aujourd'hui qui ont accablé. Il n'a pas pris le salaire du gouverneur. Hein, le gouverneur pouvait exiger des choses aux gens. Il n'a pas fait ça. Il s'est attendu à Dieu et il manquait de rien puisqu'il avait 150 hommes à sa table. Chaque jour, vous imaginez, nourrir 150 personnes chaque jour. Donc ça veut dire qu'il manquait de rien, mais il n'a pas usé des pressions dont ont usé les anciens gouverneurs. Donc c'est très bien de prendre ces exemples-là, de rester à sa place et que Dieu lui-même pourvoie nos besoins, de ne pas accabler les gens, ce n'est pas biblique. Voilà, nous continuons chapitre 6.
Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambalat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis
apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message 5e fois par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sanballat. Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient. Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Delaja, fils de Mehetabel. Il s'était enfermé et il dit, « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis, « Un homme comme moi prendre la fuite ? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ? Je n'entrerai point. »
Voilà, donc on peut s'arrêter là. Oui, on devait s'arrêter avant, au niveau du verset 8. « Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. » Alors, les attaques, ça continue. Donc, bien aimé, comprenons que si Jésus a été tenté, le diable continuera son œuvre contre les enfants de Dieu. Parfois, beaucoup de gens sont tellement attachés à leurs propres ambitions, à leur propre vie, qu'ils ne voient pas les attaques qui touchent le corps du Christ et l'Église locale. Donc, tellement ils regardent à eux-mêmes, ils ne regardent pas les attaques, ils prennent, au fait, leur vie est égoïste. Ils ne s'associent pas aux attaques qui touchent toute l'œuvre de Dieu et parfois, ils peuvent prêter main forte aux gens qui attaquent l'œuvre de Dieu. Et là, les Sanballat continuent les attaques et ils accusent maintenant Néhémie de vouloir devenir roi. Voilà, donc on passe par la calomnie. Et Néhémie ne cède pas. Il dit, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Voilà, donc il dit clairement, c'est toi qui l'inventes. Et déjà, Néhémie n'a même pas daigné aller au rendez-vous qu'on lui a fixé pendant à 4 reprises. Il n'a pas voulu le faire parce que c'était un piège pour le tuer. Bien-aimé, on voit que servir Dieu, rebâtir l'œuvre de Dieu, c'est du costaud, c'est du sérieux. Il y a une opposition qui est forte et il faut que tout le monde soit conscient de ça pour ne pas devenir aussi complice sans s'en rendre compte des gens qui veulent tuer l'œuvre de Dieu. Parce que tu ne regardes qu'à tes intérêts, à toi, tu ne regardes qu'à toi, tu ne regardes qu'à ta vision. Tu n'as pas une vision du corps du Christ, tu n'as pas une vision de l'Église du Seigneur. Voilà, donc il faut qu'il y ait cette prise de conscience-là. Ça évitera que des frères combattent des frères. Que des faux frères combattent les frères, c'est compréhensible. Mais que des frères combattent les frères, c'est pas bon. C'est un problème d'immaturité. Donc pour cela, il faut prendre conscience des attaques qui peuvent être lancées les uns contre les autres. Dès que tu entends quelque chose qui est dit sur un frère ou sur un pasteur, toi tu répercutes ça sans vérifier. Parce que là, on dit que Néhémie veut devenir le roi. Mais c'est faux. Mais certains pouvaient se rajouter au nombre pour dire, mais c'est vrai. Voilà. Et sans le vouloir vraiment tuer l'œuvre de Dieu, mais après avoir été manipulés eux-mêmes, parce qu'ils ne prennent pas conscience des attaques qui touchent l'œuvre de Dieu. Et ça n'a pas marché, cette menace, cette calomnie, ça n'a pas marché. Néhémie a tenu bon et ils ont fait. Il y a une autre forme d'attaque qui est venue. C'est pourquoi on a mis parmi les titres d'aujourd'hui attaques diverses. Quoi. Il y a plusieurs attaques spirituelles diverses. Bien-aimés, comme nous avons l'habitude de le dire, Satan peut projeter ta chute et attendre pendant 11 ans, 12 ans pour te faire tomber. Donc, il monte plusieurs circuits d'attaque. Satan ne vient pas qu'avec un seul circuit. Il monte plusieurs circuits d'attaque. C'est ça qu'il faut comprendre. Le peuple de Dieu doit rester vigilant. Pensez à l'œuvre de Dieu. Ça ne doit pas mourir. Voilà. Parce que les circuits d'attaque du diable sont multiples. Et là, on va voir un autre circuit à partir du verset 10. Mais on voit encore au verset 9, qu'est-ce que Néhémie fait ? Il prie. « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Bien-aimé, la prière, c'est capital. Seul Dieu peut nous protéger. Seul Dieu peut tout faire. Donc, pensons à régler toutes les oppositions par la prière. Prions d'abord. Et c'est en priant peut-être que Dieu peut dire « Fais ceci, fais cela. » Mais commençons d'abord par prier. Commençons par recommander la situation entre les mains de Dieu avec foi. Verset 10.
« Je me rendis chez Shemaéja, fils de Delaja, fils de Mehetabel. Il s'était enfermé et il dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. » Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambalat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettraient un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambalat, et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer.
Voilà, un autre circuit d'attaque, les faux prophètes, les fausses prophéties. Pour t'induire en erreur en disant « Ah, c'est fini, demain ça sera grave. » Bien aimé, toutes les prophéties qui ne donnent pas de solution dans le Seigneur, il faut faire attention à cela. Comme il y a une sorte de prophétie, ce n'est même pas une prophétie, une analyse d'un pasteur qui est en train de circuler à travers WhatsApp concernant les événements liés au Covid qui vont s'amplifier à partir du mois de mars. Et quand vous écoutez cette prophétie, vous en ressortez abattu, comme sans force. Est-ce la parole de Dieu? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens que la prophétie, ça sert à édifier. Même si ça peut annoncer quelque chose de difficile, la fin de la prophétie est une édification. Donc ça te procure la force du Seigneur pour la suite. Mais quelque chose qui se réduit juste à l'annonce des mauvaises choses qui vont arriver, c'est tout. On vous présente que tout ce qui va arriver de mal, qu'est-ce que ça produit? Ça produit une dépression dans les cœurs des gens. Ça produit la fatigue, l'abattement. Les gens ne savent plus quoi faire. Ça ne vient pas de Dieu. Et c'est ce que Néhémie dit qu'il cherchait à l'effrayer. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija de Sambalat, les corrupteurs, et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Donc des prophéties qui cherchent à effrayer les autres. Et quand les autres sont en panique, à tromper les manipulés. Quand quelqu'un est en panique, on peut lui dire quelque chose, un ordre. Allez, mets-toi à quatre pattes, tu seras protégé, c'est ma quatre pattes. Comme là, on voit les gens mettre le masque dans les rues. Donc, dès qu'on on est paniqué, allez, on te donne un ordre et tu te trouves bien aimé. Voilà, on va obéir, c'est l'ordre. Mais quand quelqu'un se retrouve sur son vélo, dans sa voiture avec le masque, donc là, ce n'est même plus l'ordre. Là, c'est la personne a subi un lavage de cerveau. Voilà. On lui a fait croire qu'il était un danger lui-même, tout seul pour lui-même. Et c'est ça qui se passe. Prophétie qui effraie, de sorte que tu perds contrôle et tu peux maintenant écouter un mauvais conseil et obéir. Quel était le piège dans, déjà là, il est écrit que la personne, quand on dit « Je me rendis chez Shemaéja, fils de Delaja, fils de Métabéel », au verset 10, « Il s'était enfermé ». Ça veut dire quoi, il s'était enfermé? Donc, il cherchait la face de Dieu. Donc, il s'est enfermé pour chercher la face de Dieu, pour prier. Donc, on sent que là, c'est du spirituel. Il s'est enfermé pour prier. Et quel est le conseil qu'il donne à Néhémie? Ben, on cherche à te tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ensemble se cacher dans le temple. Or, bien-aimés, vous connaissez le système du temple. Comment ça fonctionnait? Qui avait le droit d'entrer dans le temple? Seuls les sacrificateurs. Seuls les sacrificateurs. Donc, le parvis, c'était pour tout le monde, mais le temple est composé de deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Et la partie extérieure, c'est le parvis, c'est la troisième partie. Pour entrer dans le temple, donc le temple lui-même, donc tu entres dans le lieu saint, c'est pas permis aux non-sacrificateurs. Néhémie n'était pas un sacrificateur, c'était un laïc. C'était pas quelqu'un qui était un scribe, non, c'était un frère, un laïc. Il n'avait pas le droit d'entrer dans le lieu saint. Maintenant, là, on lui fait peur, on dit, mais le seul endroit où tu seras protégé, ça sera dans le lieu saint. Lui, il a compris que c'était un piège. Quand il allait partir là-bas, le bruit allait se répandre comme quoi Néhémie a osé entrer dans le lieu saint. Il a bravé la loi divine. On se souvient d'un roi qui avait attrapé la lèpre comme ça, hein, qui s'est permis d'entrer dans le lieu saint pour faire des choses contre la vie des sacrificateurs. C'est comme ça qu'il a eu la lèpre. Et donc là, qu'est-ce qu'on allait dire? Néhémie dit, c'était un piège pour salir ma réputation. Les gens allaient dire, Néhémie ne respecte plus la loi de Dieu. Et donc du coup, quand on salit la réputation de celui qui amène les gens dans la volonté de Dieu, les gens ne s'intéressent plus à la volonté de Dieu. Les gens ne s'intéressent plus aux objectifs de Dieu parce que celui qui ramène les gens à cela, ben, il est sali. Il a maintenant une mauvaise réputation. Tout ça, bien-aimé, ce sont des pièges. Nous devons veiller. Il y a des gens qui peuvent avoir une attitude spirituelle, mais c'est des faux. C'est ce dont Néhémie parle là, la prophétesse Noadia et d'autres prophètes, et notamment ce monsieur-là, Shemaéja, qui s'est enfermé. Donc on s'est dit, ah, c'est un homme spirituel. Quelqu'un qui a jeûné 40 jours, après il vient te donner une prophétie, tu te dis, ah, mais ça ne peut venir que de Dieu. Oh, il y a des mascarades. La vérité, ça ira toujours dans une logique biblique. La peur, ça ne vient pas de Dieu. Là, on lui dit, tu dois avoir peur, fuis dans le temple. Qu'est-ce qu'il dit au verset 13? En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Vous voyez la suite. Tu as peur? Quand tu as peur, tu écoutes les mauvais avis. Et troisièmement, tu pêches. tu fais quelque chose qui va te détruire toi-même. Donc on utilise les faux prophètes pour créer la peur. Des gens qui passent à la télé, qui disent des choses pour créer la peur. Après, d'autres vont passer pour donner des avis qu'on va suivre bêtement et puis qui vont tourner contre nous-mêmes dans leurs résultats. Donc, c'est ça la réalité. Et Néhémie dit, ce n'est pas à moi d'avoir peur. J'ai un Dieu. J'ai Dieu. Mon Dieu, c'est le seul Dieu. Voilà. Ils viendront te tuer. Va dans le lieu saint, te cacher. Bien-aimé, il faut faire attention. Il est écrit dans 1 Jean 5, 4, c'est la foi que Dieu nous a donnée qui triomphe de ce monde. Donc, quelque chose qui tue ta foi ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Notre foi doit fonctionner. Le juste vivra par la foi. Quelque chose qui tue ta foi, ça ne vient pas de Dieu. Donc, soyons prudents par rapport à notre foi, plus que par rapport à tout, parce que c'est ça qui nous fait vivre. Néhémie a senti qu'on attaquait sa foi. S'il suivait la peur, il allait arrêter aussi la construction, finir la construction de la muraille. Il a dit non, je ne cède pas. Dieu me protégera. C'est très important. Restons dans la vision que c'est seul Dieu qui peut nous protéger. Voilà un autre circuit d'attaque. Donc, on utilise les faux frères, les fausses sœurs pour créer des bruits, pour faire peur, pour créer la division. Bien-aimés, tout ça doit nous parler. Toi qui es appelé à servir Dieu en tant que responsable, c'est le moment d'écouter tous ces conseils. Comprendre qu'il ne faut pas être méfiant, mais il faut être vigilant, être attentif. Le diable a plusieurs circuits d'attaque. Il peut venir à gauche. Toi, tu penses qu'il veut t'entraîner à gauche. En réalité, il veut te pousser à aller à droite, mais il passe par la gauche. Donc, il faut être soumis à Dieu pour être attentif à tout cela. Il faut avoir des principes immuables. Garder la foi, toujours garder la foi. Garder Dieu comme seul chef, comme celui qu'on doit adorer. Ce sont les principes que Jésus a utilisés quand Satan là, est venu le tenter. Il a dit, il n'y a que Dieu qui doit être qui doit être adoré. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Jésus a dit, je suis fils de Dieu, je le crois. Je suis certain de cela. Voilà. Ce n'est pas en transformant les pierres en pain que je deviendrai fils de Dieu. Et tout ça, c'est des pressions qui viennent. Mais oui, mais prouve que tu es un vrai pasteur. Prouve, tu n'as rien à prouver. Si tu l'es, tu l'es. Voilà. C'est Dieu qui fixe les choses et on s'en contente. Voilà. Donc, c'est important de comprendre ces pièges-là qui sont réguliers. Je ne peux pas dire permanent, mais qui sont réguliers dans le travail de Dieu. Parce que là, ça vient à la deuxième partie de la construction de la muraille. Les pièges sont là. Et en corrompt, on donne de l'argent aux faux serviteurs qui donnent des fausses prophéties. Ça existe. Ça existe. Voilà. Nous continuons, verset 15 jusqu'au verset 19.
La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils, Jokanan, avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer.
Voilà, bien aimé, la réalité de l'œuvre de Dieu, c'est que même si nous sommes appelés à discerner les infiltrés, il faut comprendre qu'il y en aura toujours. Donc Néhémie explique que ses paroles étaient rapportées à Tobija. Donc Tobija était quelqu'un par alliance lié à beaucoup de Juifs et il avait une influence. Donc, malgré tout ça, Néhémie a achevé la muraille. Gloire à Dieu. Donc Néhémie était entouré des gens qui étaient bons, mais il y avait aussi des espions de Tobija qui étaient là. Donc qui rapportaient tout. Bien-aimé, c'est normal, il y aura toujours des infiltrés. Il ne faut pas penser que quand on en a détecté quelques-uns, c'est fini. Non, il y en aura toujours. Et nous devons faire avec. Jésus a été avec Judas jusqu'au bout. Voilà, nous devons faire avec. Donc c'est une réalité. Maintenant, comment s'en prémunir? C'est rester dans la vérité. Faire les choses proprement, c'est la seule protection qu'on a. Et garder la foi en Dieu. Garder la foi en Dieu. Ne pas tomber aussi dans un système de CIA, d'espionnage. On commence à espionner les gens pour savoir qui est qui. Ah non. Dieu est tout puissant pour voir tout ce qui se passe. Dieu sait tout ce qui se passe. Il sait tout ce qui se passe. Donc on peut lui faire confiance. Nous servons Dieu. Soyons fidèles à Dieu. Et Dieu, lui, il voit tout. Il sait qui a volé quoi, qui a dit quoi. Il sait. Nous continuons notre route avec le Seigneur dans la vérité. N'entrons pas dans un système d'espionnage et de CIA parce que ce n'est pas biblique. Nous devons appliquer la parole qui dit « L'amour ne soupçonne point le mal ». Malgré tout cela. Donc on doit être dans cet esprit-là d'assurance et d'amour. C'est ça qui nous sauvera. Assurance, amour et vérité. C'est ça qui nous sauvera. C'est ce que Néhémie a pratiqué. Et Néhémie, malgré tout ce complot immense, il a quand même achevé la muraille. Donc bien-aimés, nous irons jusqu'au bout par notre Dieu. Il est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Voilà. « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Donc la leçon qu'on apprend de Néhémie, c'est quoi? C'est la persévérance dans la prière et dans le travail jusqu'au bout. Et au passage, en résistant aux infiltrés, en résistant aux calomnies, en résistant aux faux prophètes, mais on persévère dans le travail et la prière jusqu'au bout. Voilà l'appel, l'exhortation que je fais à tous les bâtisseurs d'aujourd'hui, à tous les constructeurs d'aujourd'hui. Prière, travail, vigilance, détermination et nous nous retrouverons dans un temps de réveil total où la gloire de Dieu sera de retour. Nous aurons la joie. Nous aurons de la joie. La joie nous est réservée au bout, mais il faut de la persévérance. Acceptons qu'il y ait des temps difficiles. Esdras a connu ça. Zorobabel aussi. Et le sacrificateur Josué ont connu la même chose. Mais en persévérant, ils ont fini le temple. Et Néhémie a persévéré. Il a fini également la muraille, même s'il était infiltré de part en part. Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous allons prier que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous te remercions pour tout cet enseignement qui est vraiment capital pour nous. Nous avons beaucoup appris, Seigneur. Alors nous te demandons de nous aider à passer à la pratique. Que nous continuions à prier, à lutter dans la prière, en même temps qu'à travailler, quelle que soit l'infiltration, quelles que soient les calomnies, les coups bas, que nous continuions à travailler. Seigneur, quelles que soient les oppositions, que nous allions jusqu'au bout, que nous gardions l'assurance, la foi, l'amour et la vérité, Seigneur. Merci de nous aider dans tout cela, au nom de Jésus. Amen.